suis prêt, mon lieutenant.
Une seconde.
Cela faisait longtemps que nous voulions faire une émission sur le problème de l'accaparement de l'eau avec, en fond, le problème des bassines. Avant de creuser cette histoire de bassines, de vous expliquer pourquoi stocker en surface de l'eau qui était peinard en sous-sol n'est pas vraiment une bonne idée, nous voulions aborder les problèmes que représentent la privatisation, la financiarisation et enfin la marchandisation de l'eau. Vous comprendrez aisément que les bassines représentent une étape de plus dans l'accaparement, du bien commun et de sa mise sur le marché. Au mois de février, nous avions assisté à une conférence sur l'eau animée par Sylvain Leder, contributeur au Monde diplomatique contre la privatisation de l'eau. Nous avions eu son accord pour enregistrer son intervention. Nous allons débuter notre série sur l'eau avec celle-ci.
On est prêt ? Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque !
Non, ça apporte beaucoup de joie et de sourire. Voilà. Et... Non, ça je vais pas le dire. Voilà. Donc, on a la joie d'accueillir ce soir Sylvain Leder, qui est donc journaliste au Monde diplomatique et aussi prof de sciences économiques et sociales dans le sud de la France. On voulait le faire venir sur une proposition d'amis, mais parce que le sujet nous intéresse sur la question donc de l'eau. Et de l'accaparement des ressources naturelles et des communs qui est en marche depuis maintenant quelques dizaines, voire trentaines, voire siècles d'années. Voilà, je vous avoue que je viens de passer la semaine auprès de mon père malade, donc j'ai pas vraiment préparé le sujet, contrairement à ce que je devais faire. Je vais pas faire semblant. Mais, comme nous avons quelqu'un ici de vaillant et de fort aguerri à cette question, je pense que ça va bien se passer. Et moi, je le relancerai si jamais il s'endort à un moment donné, ce dont je doute. Voilà. Et il y aura évidemment un débat à la fin. Et on a aussi ici des gens qui s'intéressent de très près à la question des méga-bassines. On pourra reparler de qu'est-ce que c'est. Dans les Ardennes et qui, j'espère, interviendront pour nous présenter un petit peu l'état des lieux plus local et aussi qu'est-ce qu'il est envisageable d'organiser collectivement pour éviter qu'on se fasse encore avoir comme d'habitude. Voilà. Donc, l'eau, je sais qu'il faut en boire avec modération parce qu'elle disparaît. C'est comme l'alcool. Oui, voilà. Mais, du coup... Est-ce qu'il faut que je te lance plus ou est-ce que tu es prêt à partir ?
Je suis prêt.
Il est prêt. Il est formidable. Il est prêt. Merci.
Oui, donc bonsoir à tous. Voilà. Bah, merci d'être venus, déjà aussi nombreux, hein, on est d'accord. Merci à Ferdinand pour l'invitation aussi. Oui, en effet, moi je travaille au Monde diplomatique depuis à peu près 8 ans maintenant. Et là, actuellement, donc, je suis en train de travailler sur un article sur les méga-bassines. Donc, en fait, je travaille exactement sur l'eau, donc les méga-bassines. Voilà. Donc, j'ai proche de moi, en fait, des gens qui participent au mouvement type Sainte-Soline. Et donc, c'est vrai qu'on s'est intéressé un petit peu au Monde diplomatique à ça. Alors, moi, pour me situer, en fait, hein, je suis l'aile très à gauche du Monde diplomatique. Parce que je veux dire très à gauche du Monde diplomatique. Donc, voilà, donc ça crée aussi, bon, évidemment, des tensions, mais comme partout, finalement. Mais c'est, ça reste un journal de qualité. On peut faire un travail du type, voilà, venir ici, mener une enquête sur plusieurs mois, ça ne leur pose aucun problème. Et donc, c'est pour ça que donc, je travaille avec eux avec plaisir. Ce qu'il y a, c'est que, donc oui, le problème des méga-bassines, ouais, c'est vrai qu'il y a ça, mais en fait, moi, limite, ce soir, je m'étais dit, tiens, bah, je ne vais pas en parler des méga-bassines. Non, mais c'est vrai, je m'étais dit... Non, voilà. En plus, moi, actuellement, oui, moi, je suis en train de faire des conférences sur les retraites aussi en même temps, donc voilà. Non, mais on va pas faire ça. Mais presque. En fait, pourquoi ? Bah, déjà, parce que, premièrement, on est tous d'accord. D'accord ? On est tous d'accord pour voir que les méga-bassines, en fait, on n'en veut pas. On n'en veut pas, et en fait, j'ai relevé plusieurs raisons, mais chacune, en fait, se suffit à elle-même. Hein. Alors, premièrement, moi, ce que j'ai vu, bon, c'est que, on pourra en discuter, mais c'est une aberration aussi bien...
Je vais déjà te couper, excuse-moi.
Écologique qu'économique.
Qu'est-ce qu'une méga-bassine ?
Alors...
Je suis désolé. Hein ? Je suis vraiment désolé.
Eh ben, si tu attends un petit peu...
Allez.
Je te resserre. de l'alcool pour le monsieur. Alors, deuxième raison, moi, juste parce que la FNSEA est d'accord avec les méga-bassines, moi, je suis contre. Non, mais déjà, rien que ça. Et en plus, voilà, enfin, je veux dire, je lis très régulièrement la presse de droite, j'en souffre, mais voilà, chacun son travail. Et c'est vrai que tous les valets du capital, tout ça, enfin, je veux dire, tous les journaux comme ça, c'est la même chose. Méga-bassines, c'est la solution. Donc, quand on voit un peu ce qu'ils ont fait, un petit peu, avec l'agriculture, par exemple, l'agroalimentaire, etc., moi, déjà, de fait, quand j'entends le FNSEA qui dit « je soutiens », ah bah déjà, je me dis « tiens, dans l'autre sens ». Enfin, parce que, troisièmement, parce qu'en fait, et c'est ça qui m'a intéressé pour l'article du Monde Diplomatique, c'est que cette histoire de bassine, de méga-bassine, cet énorme trou qui peut faire plus de 10 hectares dans lequel tu mets une bâche, et tu récupères l'eau de pluie. Premier mensonge, évidemment, où tu vas piocher dans la nappe phréatique. Bon. En fait, ce qu'il y a, ces bassines-là, en fait, c'est quand vous prenez un peu de recul, quand vous étudiez l'histoire, en fait, de l'eau, vous vous rendez compte, en fait, que cette histoire d'intérêts privés qui servent des intérêts privés, ou d'État qui servent des intérêts privés aussi, voilà, et bien, en fait, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que là, je vais vous faire quelque chose de rapide, mais je vais quand même vous rappeler quelques dates fondamentales, quelques moments qui font que, en France, on utilise, on distribue, on privatise, on marchandise, on financiarise peut-être l'eau de manière tout à fait particulière. Quatrièmement, parce que pour moi, les bassines, ces méga-bassines-là, constituent un pas supplémentaire, un pas de trop vers la finance. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de nous préparer, on a pu le voir ailleurs. Vous allez voir qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir peur de cette finance-là en réalité, parce que ça ne marche pas du tout. D'accord ? Et en même temps, il y a un véritable risque qui se profile. Alors, je dirais ça comme ça. Vous connaissez cette phrase-là, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde. Bon. À gauche, on l'a souvent transformé, enfin, je ne sais pas qui d'ailleurs, quand le sage montre la fortune de Bernard Arnault, l'idiot regarde le gréviste, d'accord, par exemple. Moi, j'adhère pas à cette phrase-là. Moi, je dirais plutôt, quand le sage montre le capitalisme néolibéral, l'idiot regarde la fortune de Bernard Arnault. En fait, ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que peut-être que c'est là que nous sommes un peu idiots. C'est-à-dire que les méga-bassines, enfin, je veux dire bassines non merci, moi, je suis d'accord, mais ça ne me suffit pas. En fait, moi, c'est agroalimentaire non merci, privatisation de l'eau non merci, capitalisme non merci. On est d'accord. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va devoir aborder des thèmes, évidemment, beaucoup plus larges que ça. Et c'est pour ça que... tiens, je mets le timer. C'est pour ça que après le débat, il va être aussi très important. Alors, je finirai cette introduction en vous disant une chose. On a tous senti, à un moment donné, que le capitalisme, que j'appellerais néolibéral, on pourra en discuter, hein, eh bien, on a l'impression qu'il y a toujours un coup d'avance. Vous ne trouvez pas ? On a l'impression qu'il attaque d'un côté, on se défend, il attaque de l'autre, on a beaucoup de mal en fait à s'organiser, à contre-attaquer. Il prend possession de notre temporalité, il prend possession de notre vocabulaire, il prend possession en fait de nos rêves, de notre sommeil, etc. Donc ce capitalisme-là, à un moment donné, il faut quand même qu'on sache ce qu'il nous veut. Alors évidemment, vous comprenez bien, la FNSEA, ils n'ont pas une passion pour creuser des trous. Ils ne sont pas des fous de la bâche, c'est pas ça. En fait, même l'eau, ils s'en fichent. En fait, ils cherchent autre chose. Ils cherchent le carburant même du capitalisme. D'accord ? En fait, ils cherchent de l'argent à court terme. Vous voyez ? Donc, on pourrait l'appeler profit, on peut l'appeler croissance économique, ce que vous voulez. Mais en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, c'est ça aussi qui va nous intéresser à travers le problème de l'eau. Alors, l'intervention, donc, 4 temps. Je ne dépasse pas une heure, c'est sûr. Hein. Je vais essayer de viser 50 minutes. Tu as dit 45. Ça. Bon.
Ça négocie sec.
Voilà, ça négocie. Alors... Premier temps, je fais un rappel très très rapide, vraiment, franchement, sur un peu d'autres enjeux qui ne vont pas nous intéresser. On va dire de quoi on ne parle pas, mais quand même, ce qui est important malgré tout, hein, d'accord. Après, donc, je reviendrai sur le cas français, en particulier sur le problème de l'eau, pour ensuite voir, en troisième temps, les risques réels de financiarisation. Et enfin, on finira sur une note positive, puisque je vous exposerai quelques grands moments de résistance. D'accord, par rapport à l'eau, qui ont fonctionné, des modes d'organisation, qui, alors, je ne sais pas si vous suivez un peu les travaux, par exemple, de Franck Poupeau, d'accord, qui a sorti un livre passionnant, qui est un petit peu épais, 700 pages, mais ça s'appelle Altiplano, enfin, vous voyez, c'est sur la résistance, justement, par rapport aux multinationales ou de l'auto-organisation pour la gestion de l'eau. Voilà. premier temps. Alors vraiment, c'est quelque chose de très court. Il faut quand même que je le dise. On est d'accord sur une chose, c'est que l'eau, en fait, ça va façonner énormément de choses. Ça va façonner aussi bien la géographie, on est d'accord, que ça peut façonner, par exemple, nos imaginaires. Alors, en lisant des textes sur l'eau, par exemple, je voyais le rapport à la médecine. On ne se lavait pas à une époque parce qu'on pensait que finalement, ça allait ouvrir nos pores, on allait être malade. Bon, des choses comme ça. Donc, à partir du moment où on a des considérations sur l'eau, on voit que les politiques aussi vont suivre et se modifier. Quand on va trouver que l'eau est bonne, à ce moment-là, on va justement la marchandiser, on va essayer de s'y rendre, ce sont les cures, d'accord ? Donc, c'est vraiment extrêmement important. J'ai regardé aussi, il y a des interrogations et des livres entiers sur les problèmes militaires. Alors, on peut penser, bien sûr, à l'Ukraine, hein, Kherson, etc., le barrage, vous savez, ils ont menacé de faire sauter le barrage de Kherson. Donc, on voit bien que c'est une arme de quelque chose. Il y a bien sûr, en 1914, j'ai trouvé des écrits hyper intéressants sur le plus dur, en fait, à déplacer pendant 14-18, ben, en fait, c'était l'eau. L'eau, vous imaginez, les chevaux, les gens, il faut de l'eau, en plus, qui reste bonne, etc. C'était toute une gestion et une catastrophe, parce qu'on a, bien sûr, très, très peur des épidémies en particulier. Mais, en soi, il n'y a jamais eu de guerre de l'eau. Alors, c'est-à-dire que ça a pu être des escarmouches, ça a pu être des moyens de menace ou des chantages, choses comme ça, on pense bien sûr à la Palestine. Mais ce qu'il y a, en attendant, c'est qu'il n'y a pas de guerre de l'eau. Ce qui nous permet quand même de dire, à un moment donné, vous voyez, j'allais dire problème de riches, nos méga-bassines. Oui, mais vrai problème quand même. Mais bon, le manque d'eau, l'eau impropre, c'est 30 000 morts par jour. Voilà, 30 000 morts par jour dans le monde. Mais ce n'est pas notre question ce soir. D'accord ? Donc, on va revenir sur le cas français. Le deuxième temps, c'est donc une petite histoire, si vous voulez, de l'eau en France. Alors, vous imaginez bien que nous, en France, on ne manque pas d'eau, en réalité. Enfin, je veux dire, les problèmes qu'on se pose aujourd'hui sont très récents. Et encore, hein, il y a des interrogations en disant, est-ce qu'on manque d'eau ou pas ? Non, peut-être pas. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est que l'eau est mal répartie dans l'année. Enfin, voilà. Il y a quand même des interrogations là-dessus, mais historiquement, on n'a pas manqué d'eau. Au contraire, d'accord ? Comme je disais, le code de Napoléon, par exemple, le problème, l'eau, souvent, plutôt, c'est emmerdant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va couler, ça va envahir, ça va noyer. Ça, donc, voilà, les gens se rejettent un petit peu la responsabilité. Et en fait, il a fallu, à un moment donné, trancher. Donc, ce qu'il y a, c'est que... là, oui, bien sûr, je fais une parenthèse. Ça compte pas dans mon temps, ça. Le truc, je ne traite pas d'un autre scandale, mais ce n'est pas quand même la première fois qu'on essaye d'enfermer l'eau quelque part et de se l'accaparer. D'accord ? On va appeler ça, évidemment, les bouteilles d'eau. D'accord ? C'est formidable. Formidable. Vous savez, voilà, l'eau du robinet en France, on fait tout. On lave même nos caniveaux avec, mais en revanche, on ne la boit pas. Et ce qu'il y a, c'est que l'eau, en fait, c'est sous Louis XIV, en fait, on découvre que l'eau, c'est génial, etc. Lui qui prenait pas de bain, il a dû en prendre deux dans sa vie, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais, enfin, je l'avais autrement, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on trouve que c'est génial, l'eau, et donc, à ce moment-là, on va autoriser, donc... alors déjà, on va commencer à aller en cure, après, on va autoriser les gens donc à vendre l'eau. C'est une sorte de première phase de marchandisation. On est d'accord là-dessus. Donc... Là, j'avais retrouvé un peu des dates comme ça d'autorisation qui ont été données à des grandes entreprises aujourd'hui richissimes, Badois, Vittel, Salvetta, etc. En fait, ça, on est au 19e siècle. Et en fait, là, vous voyez, c'est là où se constituent les grandes fortunes ici. Aujourd'hui, là, ces grandes fortunes-là, elles viennent de là, d'autorisation, encore une fois, de l'État. Le rôle de l'État en France, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas comprendre d'ailleurs la forme néolibérale du capitalisme si vous ne comprenez pas le rôle, en fait, de l'État. En fait, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que nous, comme on n'a pas un problème d'eau, eh bien, on va s'intéresser plutôt à sa distribution. À sa distribution, il y a eu des essais. Alors, le premier essai, il est identifié à Paris. On est vers 1777. Et ce qu'il y a, c'est qu'à Paris, évidemment, déjà à cette époque-là, il y avait une forme de bourgeoisie. Donc on va essayer de créer un système de distribution. C'est les frères Perrier, rien à voir avec les boissons Perrier, hein, qui créent un système, mais complètement abracadabrant, où ils vont chercher l'eau dans la Seine. C'est des machines qui pompent, qui envoient dans les immeubles, ça explose, etc. Mais voilà, c'est une première tentative. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 5 ans, ils avaient 5 abonnés. Alors, vous imaginez bien, quoi. Au bout de 10, ils en avaient 40. Donc, une catastrophe. Et donc... À ce moment-là, c'est la mairie de Paris, en fait, qui va se ressaisir, en fait, de ce système de distribution. Mais vous voyez, déjà, on s'était dit, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir un système d'eau à soi. Structurer, créer des bassins, créer des barrages, créer des forme de bassines aussi à l'époque, et des méga bassines aujourd'hui. En fait, c'est très ancien. En fait, c'est très ancien, et évidemment, chez Napoléon, on trouve quelque chose de crucial dedans. C'est-à-dire que, pour comprendre l'histoire de l'eau et pour comprendre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'à partir du 19e siècle, il y a un modèle français de l'eau qui se met en place. Et ce modèle français de l'eau, il est assez exceptionnel. C'est-à-dire, déjà, par exemple, il est facilement privatisé. D'accord ? Alors, ça peut être par délégation. On est OK. Les délégations de services publics, tout le monde sait ce que c'est ? Bon, j'imagine. Ces délégations de services publics-là, en fait, c'est très rare. Dans d'autres pays, très très vite, tout le monde, par défaut, c'est l'État qui va gérer, en fait, l'eau. Alors, l'accaparement de l'eau par l'État, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. D'accord ? Mais c'est comme ça que ça se fait. En France, donc ça veut dire que si on regarde, il y a moins de 10% en fait de l'eau dans le monde qui est gérée par le privé. Moins de 10%. En revanche, on va retrouver 2-3 grandes multinationales qui vont tout prendre. D'accord ? Donc ce qu'il y a, c'est que nous en France, on fait des délégations. Ça, c'est une première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'en France, on a autorisé la création d'un cartel. Alors, nous, on le connaît maintenant sous le nom de Veolia ou Suez. On a pu le connaître sous le nom de Vivendi, la Lyonnaise des Eaux, etc., etc. Mais on a autorisé la formation des cartels. Donc ça, dans le rapport de force, c'est extrêmement particulier. Troisième spécificité, c'est qu'en fait, il y a un système d'émiettement communal en France. Et c'est pas rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au niveau de l'État, début 19e, on va gérer l'eau au niveau de l'État, ça va fonctionner, c'est nous qui allons décider et les gens vont se plier. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on pouvait encore consommer l'eau des pluies, l'eau des rivières aussi, hein, ça, y avait moins d'enjeux. Mais très vite, on se rend compte d'un truc, c'est que ça crée un rapport de force qui n'est pas favorable en fait à l'État, ni aux grandes entreprises, aux grands cartels, aux grands bourgeois qu'on essaie de favoriser. Donc, on va commencer à distribuer en fait des compétences, responsabilités locales. Et évidemment, très très vite, il va se passer quoi ? C'est qu'un petit village tout seul qui va devoir construire en fait des infrastructures, il ne va pas y arriver. Donc il va très facilement être la proie des entreprises qui, elles, ont des moyens pour construire des infrastructures. Ces trois spécificités-là font en fait que la France est un terrain très favorable pour voir l'apparition des grands Veolia, évidemment. Alors, on est d'accord donc, sur qu'à un moment donné, au milieu du 19e siècle, on se concentre surtout sur la construction, bon, vous savez, des écoles, des hôpitaux. Alors, vous savez pourquoi, hein, l'hygiène. L'hygiène, en fait, est créée par l'État. Okay, et c'est évidemment toutes les guerres qui nous poussent à aller vers l'hygiène et plus d'écoles. Hein, je vous rappelle que Jules Ferry, quand il dit qu'il veut créer l'école, il n'est pas là du tout pour le bien des gens. Hein, il est en train de dire ça protège les enfants d'ouvriers du socialisme. En fait, il en avait peur. Hein. Il voulait y voir ici un esprit beaucoup plus chauvin qui nous permettrait de gagner les guerres. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est quand vous lisez les textes sur l'instituteur, vous vous rendez compte qu'il attend d'eux qu'ils soient aux ordres, vraiment aux ordres. Donc, c'est-à-dire qu'il porte une certaine parole, et bien sûr, Jules Ferry était donc pour la colonisation, hiérarchisation des races, etc. Donc, on est quand même sur des moments particuliers. Là, ils sont en train de remettre en ordre. L'hygiène, bah, vous le savez, même la sécurité sociale, la protection sociale, eh bien, ça a été créé avec les guerres. C'était une sorte de d'accord qui a été passé. C'est-à-dire que je te soigne, je te protège, je maîtrise l'ordre social, et en même temps, à côté, bah, tu donnes ton corps. C'est-à-dire que tu es un soldat, tu y vas, et puis tu es prêt à mourir pour la nation. Donc, un peu débordé dans ce système-là, dès 1850 et longtemps encore après, ils vont lâcher certaines choses. Et bien, ce qu'ils vont lâcher, évidemment, en France, c'est les infrastructures de l'eau. Ils vont se dire, tout ce qui est comme ça, c'est pas grave, on peut opérer des délégations, on peut laisser faire. Alors, évidemment, très vite, comme je vous disais, à partir du moment où vous créez des petites communes, eh ben, c'est la proie mécaniquement des gens qui ont de l'argent. D'accord. On verra en plus, ça, vous devez déjà le savoir par expérience, mais qu'en plus, même les notables qui, eux, acceptent finalement de signer pour qu'il y ait délégation, ça leur profite aussi largement. D'accord. En termes de rémunération et de tous les avantages qui sont plus ou moins visibles.
Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je ne comprends pas ces humains. Ils sont si pleins de turbulence, je crois qu'ils ont peur du silence. Ils s'imaginent réfléchir, moi je sais ce que ça veut dire. Tiens, tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, oh, je leur expliquerai bien qu'il faut qu'il n'y ait pas un souffle, ou bien l'image se boursoufle, on ne distingue plus le fond, le ciel est comme un vieux chiffon. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, elle dit que nous sommes cousins, que les humains sont très liquides, mais ils ne sont pas translucides. Où sont leurs truites, leurs brochets? Il faut croire qu'ils les cachaient. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, sans doute ils n'y comprennent rien. L'eau qu'ils possèdent, ils la salissent, ils y jettent leurs immondices, et quand elle est bien polluée, disent qu'il faut la purifier. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue. Se dit le lac Saint-Sébastien, ils sont étranges ces humains, quand ils détournent des rivières, ils sont parfois très en colère, si elles vont regagner leur lit, après avoir tout englouti. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je crois qu'ils ne font pas le lien entre toutes les eaux du monde, moi je sais qu'elles correspondent, et quand la plus petite flaque, il y a l'espérance d'un lac. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de l'eau. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils se battent comme des chiens, ils sont chiens quand ça les arrange, et puis se prennent pour des anges, comme si d'être ce qu'ils sont leur donnait un mauvais frisson. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, ils s'improvisent magiciens, ils déracinent et ils bétonnent, ils font le vide et ils s'étonnent que les saisons aillent de travers et que s'étende le désert. Mais près de moi vit une humaine, je la vois quand elle se promène, et si parfois elle parle haut, elle connaît la langue de se dit le lac Saint-Sébastien, je refroidis, l'hiver s'en vient, bientôt se formera ma glace, dessous j'aurai toute la place, pour moi le gel est bienvenu, je n'aime pas les arbres nus. Tiens, se dit le lac Saint-Sébastien, je vais rêver à ces humains, ils seront encore là j'espère, quand mes eaux redeviendront claires, et que se poseront les huards, pourvu qu'il n'ait pas de retard. Et que près de moi cette humaine ait traversé l'hiver sans peine, qu'elle vienne avec les oiseaux me parler la langue de l'eau.
Ce qu'il y a, c'est que ensuite, le cas français, il est comme ça. Vous voyez, c'est des effets de bascule en permanence. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'utilise de la délégation, bah, finalement je ne privatise pas tout, eh bien je vais d'un côté vers l'État, d'un côté vers la privatisation. À la fin du XIXe siècle, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va se développer un socialisme municipal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait, de communes qui vont s'organiser parce qu'on va créer l'élection du maire au suffrage universel. Alors la date, je l'ai par là, 1884. L'élection du maire et du conseil municipal au suffrage universel. Et là, si vous connaissez Murray Bookchin, par exemple, on va retrouver des logiques un peu comme ça, vous voyez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est les habitants qui vont pouvoir s'approprier ça et qui vont mettre en ordre leur propre approvisionnement de l'eau. Ça, ça évite, évidemment, ça met à distance tout ce qui est privé. Mais d'ailleurs, Jaurès a beaucoup combattu aussi après, hein, vous savez, la privatisation de l'eau. Mais alors, à Paris, parce que Paris, c'est un peu, vous savez, tout le temps le passage obligé. Après, dans les années 50-60, Là, on retourne vers les systèmes de privatisation. Ensuite, on va retourner un peu vers le public et dans les années 80, évidemment. Là, on va tomber sur une mondialisation financiarisée. Donc là, évidemment, eh bien, on va voir que l'eau, les enjeux sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est comme si je pouvais faire une histoire de l'eau et qui faisait l'histoire du capitalisme. D'accord ? Au fur et à mesure des rapports de force, bah oui, c'est comme tout, hein, ça cristallise en fait les rapports de force de la société, donc le capitalisme en l'occurrence, et ce qui fait que dans les années 80, eh bien, ils reviennent en force. À tel point qu'il y a même une citation de Thatcher, alors je vous la cite de mémoire, mais qui dit, quand elle veut privatiser l'eau en Angleterre, qui dit « Même nos voisins français socialistes, parce qu'ils nous appelaient comme ça, savent très bien que la privatisation, c'est mieux. » D'accord ? Donc la spéciale dédicace donc, aux socialistes, voilà, qui sont toujours un peu en embuscade dans ces histoires-là. Donc on va avoir une véritable, ce qu'on appelle vraiment, il y a des écritures assez intéressantes, d'une école française de l'eau. D'accord ? Une école de française de l'eau, c'est vraiment le développement, vous voyez, d'une expertise, de grands cartels, d'imbrication des élites politiques, économiques, qui vont s'allier en réalité pour faire de ce marché quelque chose de finalement extrêmement rentable. Alors, dans les critères qui font que c'est devenu possible, j'en ai relevé quelques-uns que je vais attraper hein, dans les communications même des grandes entreprises. Hein. Elles, par exemple, elles disent nous possédons en fait l'ingénierie financière. D'accord ? Alors là, je vous passe les détails, mais il y a vraiment des travaux très intéressants là-dessus sur comment en fait les grandes entreprises vont réussir à financer les communes, à servir presque de banque à ces communes-là. Et donc, à les sortir d'un mauvais pas ou tout simplement à décupler les rémunérations des notables et qui font que c'est un moyen de pression supplémentaire et a fortiori invisible. Il y a aussi autre chose. Ils disent, nous avons une qualité de relationnel commercial. Alors, que cache ce vocable pudique, en fait ? Ben, en fait, c'est simplement, vous voyez, les conflits d'intérêts. Tout simplement, la qualité donc, de relationnel commercial, pour eux, c'est juste ça. C'est la capacité, en fait, à happer en fait l'adhésion de ceux qui sont décisionnaires.
Il y a une pause technique.
Ah.
C'est qu'apparemment il y a des gens au fond de la salle qui n'entendent pas. Donc on va rajouter un micro. Pendant ce temps.
Allons-y.
Pendant ce changement.
On entend.
Tu l'aurais demandé ou pas ?
Apparemment, il y a des gens qui ont des grosses voix qui entendent, mais il y a des gens qui ont des petites voix qui n'entendent pas. Donc on va écouter les gens qui ont des petites voix qui n'entendent pas, et on va mettre le micro, si ça ne vous dérange pas. Et ça va permettre, pendant ce changement technique, tu peux expliquer c'est quoi un cartel, vite fait ?
Un cartel. Alors, un cartel, pour la définition vraiment la plus stricte, hein, ce serait simplement une association, en fait, d'entreprises qui vont se partager ensuite.
C'est bon.
C'est bon.
Mais continue à expliquer quand même, c'est intéressant.
Oui, qui vont. Merci, Verdun. Je le note. Alors, oui, qui vont donc se partager, en fait, le marché. Alors, ça signifie, par exemple, aussi bien les profits ou que la clientèle. Il y a des formes de cartels qui sont complètement illégales, hein, bien sûr. Et très, très souvent, ça vire à l'illégal. C'est trop facile. Vous êtes trois grandes entreprises, vous avez dû connaître, comme ça, des ententes illicites du type... Bouygues SFR Orange, enfin d'accord, il y en a à plus savoir qu'en foutre, parce qu'en fait, voilà, vous imaginez bien que, vu le système français, c'est-à-dire même européen, de mettre des amendes, ça sert à rien. Soit vous mettez une amende trop faible, donc l'entreprise elle s'en fout, elle intègre ça dans ses coûts, soit vous mettez une amende, très forte, et ça risque hypothétiquement en tout cas, de pénaliser l'entreprise, peut-être du chômage, donc ça retombe encore une fois sur les pouvoirs publics qui veulent pas. Alors, ils ont développé une technique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu pour EDF, pour éviter des genres de comportements comme ça sur l'électricité, qu'ils appellent le shaming. Alors déjà, si c'est un mot anglais, c'est qu'il y a une douille. Et le truc, c'est... Ah ouais. Donc shaming, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire faire honte. Et ils avaient dit, oui, ceux qui abusent de la situation d'EDF, eh ben, on mettra leur nom, on dira leur nom, ils auront honte. Non, mais je veux dire, ils n'ont tellement rien à foutre, quoi. Et donc le truc, c'est voilà. Et donc, bon, il y a d'autres systèmes aux États-Unis. Ils te mettent juste en prison, bah, croyez-moi que là, ils rigolent moins. Hein. D'accord ? Ok. Alors...
Merci.
Donc, très bien. Troisième temps. Alors, donc là, vous avez bien compris. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, le système français, il est déjà très particulier. Le ver est dans le fruit. C'est-à-dire que le ver est dans le fruit, la capacité à privatiser, elle est absolument là, et les autres, ils sont en embuscade. Je ne vous dis pas ce que j'ai lu sur les sites de Veolia, les promesses qu'ils nous font, mais sincèrement, c'est touchant, d'innovation, de qualité, c'est hallucinant. D'accord, c'est hallucinant. D'ailleurs, par exemple, en Angleterre, vous savez qu'il y a des mouvements de résistance assez forts, hein, ils arrivent à distribuer mais 90-95% de leurs profits en dividendes. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les gars, ils vont faire leur chiffre d'affaires, payer les salariés. Ok? Entretenir les infrastructures, t'as raison, hein, c'est sous terre. Hein, donc à un moment donné, fallait pas les tenter non plus. Hein, voilà. Donc c'est sous terre, donc ils laissent ça comme ça. Après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir le profit. Le profit, donc, c'est, on va dire, la rémunération de l'entreprise. Et avec ça, elle est censée donc payer tout un tas de choses, y compris les actionnaires. Eux, ils arrivent à donner quasiment tout aux actionnaires. D'accord? Extrêmement impressionnant. Ça nous rappelle les sociétés d'autoroute. Hein. Les sociétés d'autoroute, c'est ça. C'est 85% de leurs profits partent en dividendes, donc en rémunération d'actionnaires. Donc, pour vous dire, c'est vraiment pas les seuls à faire. Alors, en fait, pourquoi les méga-bassines, ça nous intéresse et ça nous fait peur en même temps? En fait, ça nous fait peur parce que il y a un risque. Il y a un triple risque. Alors, vous savez, il faut distinguer la privatisation. D'accord? La privatisation, ben voilà, ça c'est mon stylo. D'accord? C'est privé. Bon, c'est pas très grave pour le coup, hein, ça dépend ce que c'est. À partir du moment où ça devient la privatisation des moyens de production, c'est plus emmerdant. Mais privatiser l'eau à la rigueur, bon, pourquoi pas? Quand la privatisation est faite par des instances privées, là on peut commencer à discuter. C'est des grandes entreprises, c'est qui, c'est quoi. Quand c'est aussi par l'État, ça peut poser un problème, le pouvoir public en général. C'est-à-dire que là, vous voyez bien que, comme justement l'État va être très très vite au service en fait, du capitalisme, là ça peut poser un autre souci. Mais c'est pas pareil que la marchandisation. La marchandisation, c'est quand tu fais de l'eau un bien marchand. D'accord? Donc là, tu commences à introduire des logiques de profit. Tu dois vendre plus cher que tu as acheté. D'accord. La troisième phase, qui est en fait pour moi l'aboutissement en fait de la marchandisation, c'est la financiarisation. Et là, c'est quand vous avez recours au marché financier pour vendre l'eau. Et là, je peux vous dire, et vous, même si vous n'êtes pas du tout au point sur le marché financier, vous savez à quel point ça pose un problème. Vous avez vécu plus ou moins tous la crise de 2008, etc. D'accord, on est d'accord. Donc même si intuitivement, vous avez pu voir les dégâts que ça peut faire, c'est hallucinant. En revanche, les niveaux d'enrichissement sont hallucinants aussi. D'accord? Donc ça veut dire que, comme l'appât du gain, en fait, il est limité. Ah bah, si jamais on ouvre ça, là, ça peut être extrêmement problématique. Il faut différencier trois vagues de privatisation. La première, ça devrait être beaucoup plus connu à mon avis. Hein. Alors, l'auteur de référence un petit peu, c'est Karl Polanyi qui a écrit La Grande Transformation. En fait, c'est les enclosures. Les enclosures au XVIe siècle. Alors, je ne vais pas tout vous redévelopper pour les enclosures, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien que le capitalisme, à un moment donné, il transforme la nature, le travail, voire le capital, en fait, en marchandises. Et pour ça, les enclosures, c'est génial. Alors, moi, donc, je suis prof d'éco. Donc, ce qu'il y a, c'est que chez nous, les enclosures, ça tient une place importante parce que ça a donné plein de concepts bien pourris qu'on retrouve partout dans tous les programmes, aussi bien à l'université qu'au lycée, et qui vont, en fait, nous voler nos mots, nos concepts, donc nos idées. D'accord? Enfin, surtout, bien sûr, les idées et les concepts des élèves. Donc, on doit lutter contre absolument. Les enclosures, si vous voulez, c'est, imaginez, il y a des terres qui sont en commun. À un moment donné, alors je fais vraiment au plus simple, hein, mais c'est tout à fait vrai, hein, c'est simple et pas simpliste. Les terres qui sont en commun, et on commence à dire, regardez ces terres en commun, tout le monde peut les utiliser, donc, catastrophe, elles disparaissent. C'est-à-dire que les gens vont abuser. Par exemple, il y a une prairie, je dis, bah, je sais pas, allez-y, mettez vos bestioles là-dessus, moi je m'en fous, des vaches, ce que vous voulez, quoi. Évidemment, les gens vont profiter, ils vont en mettre plein, et ça va disparaître, d'accord? Ça, cette théorie-là, qui a été donc soutenue par quelqu'un d'économiste, qui a fait un article très important, qui a été repris, qui a permis d'obtenir des prix Nobel derrière, eh bien, en fait, c'est faux. C'est un pur mensonge historique. C'est-à-dire que ce qu'il dit n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Au contraire. Les communs, comme je vais les appeler, en fait, c'est des lieux où je peux aller cueillir, cultiver, choper une bestiole, me nourrir, etc. Et donc, ça m'évite quoi? Bah, évidemment, ça m'évite d'aller bosser, quoi. D'accord? Et ça, ça peut être un problème. Ça donne une place centrale aussi aux femmes et égalitaire aussi, hein, d'accord? Enfin, il y a une idée d'égalité dedans, vous allez comprendre pourquoi après elle va disparaître. Mais à partir du moment où les enclosures, je mets des clôtures, si vous voulez, tout ça pour mettre quoi? Bah, pour mettre du mouton parce que c'est rentable, hein, faut d'accord, et c'est les grands propriétaires à cette époque-là bah évidemment, voilà, ça met plein les poches. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que les gens qui peuvent plus vivre de ces communs, bah, ils vont aller devoir bosser dans les usines, d'accord ? Et mécaniquement, vous comprenez ? Belle époque pour les sorcières. Puisque les femmes, il faut qu'elles, elles aillent au foyer pour entretenir tout ça. Parce que Marx, il loupe quelque chose. Quand il nous parle des colonies, quand il nous parle du travail des femmes, il parle dessus et puis il passe. Mais non, en fait, sans gratuité, le capitalisme ne fonctionne pas. Et bien là, cette période-là d'enclosure, d'appropriation de la nature, des terres, c'est la première vague, en fait, de privatisation. La deuxième vague, c'est quand la crise écologique, elle arrive. D'accord ? Donc la crise écologique, elle arrive. En fait, elle arrive assez tôt, enfin assez tôt, au XXe siècle, dans la deuxième partie. Mais finalement, assez tôt, on commence à avoir des doutes, en train de se dire, on n'est pas en train de tout saloper un petit peu là. Oui, peut-être, on s'en fiche, on consomme, on est dans d'autres formes de mentalité. Il n'y a pas de révolution silencieuse encore, dans le sens de basculement des mœurs. Et là, ça commence à monter. Donc là, l'écologie devient puissante, politique, peut-être davantage structurée aussi, plutôt radicale, d'accord ? Que des bonnes nouvelles, en fait. Et donc très souvent révolutionnaire. Et là, le néolibéralisme y répond. Et il nous sort un concept qui cartonne. Ce concept-là, vous le connaissez tous. En fait, ce qu'on appelle chez nous, la green economy, d'accord ? En fait, le développement durable, le rôle des nouvelles technologies, on va être sauvés par les panneaux solaires, etc. D'accord ? Donc ça, c'est leur réponse. Chez nous, en économie, c'est complètement structuré cette histoire. Il y a des gens, des penseurs, des théories, des prix Nobel. Il y a 2 ans encore un prix Nobel là-dessus, d'accord, qui nous montre comment ça fonctionne. Si je vous montrais l'accord, vous me diriez c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas aussi con que ça. Ah si, c'est aussi con que ça. Ah je vous jure, c'est d'une bêtise, mais c'est pour le faire en résumé, sans concept, c'est comme si tu étais en voiture, tu roulais à 100 km/h, et tu as un mur en face. Et tu dis à l'économiste à côté, tu dis il y a un mur là. Et il te fait accélère. C'est parce que tu vas pas assez vite, ok ? Si tu vas assez vite, tu passes à travers le mur. C'est la même ! On leur dit, mais il n'y a pas un problème avec la croissance ? Ils font, mais non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de croissance. Si tu avais plus de croissance, tu aurais plus de quoi ? D'innovation, mon ami. Parce que c'est le progrès remplacé par l'innovation. Donc, plus d'innovation. Et donc là, à ce moment-là, voiture électrique et blablabla. Et en fait, on est sauvé. Ça, c'est la deuxième réaction. Mais c'est très important parce que ça va, en fait, faire naître des concepts qui nous ont tués. Franchement, intellectuellement, ça nous a tués. Ça prend toute la place. En fait, vous savez, comme dans le capitalisme, tout doit être capital. Bah, le travailleur, maintenant, c'est pas un exploité, c'est plus un travailleur. Il a du capital humain. D'accord ? Il investit dedans. D'accord ? Il peut épargner pour son capital humain. Vous voyez ? Donc, d'un seul coup, tout est capital. Et bien, pour la nature, on fait la même. Le capital naturel devient un concept clé qui permet de mesurer la nature. Erreur fondamentale. On commence à mesurer, on commence à comparer. On commence à comparer. Ça y est, j'ai une valeur. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je peux vendre. D'accord ? À ce moment-là, vous allez voir que ce concept de capital naturel, il va nous faire donc très mal. Maintenant, le troisième stade, le stade ultime, en fait, ça va être la financiarisation. Troisième vague, en fait, de marchandisation, c'est la financiarisation. En fait, il faut absolument que je vous dise, il y a 5 façons de financiariser. 5. D'accord ? Pourquoi faut les connaître, ces 5 façons ? Parce que c'est 5 manières de les voir venir. On va voir s'ils viennent ou pas, etc. Je vais vous dire, certains fonctionnent, fonctionnent pas, d'accord ? Il faut regarder. Et la cinquième, c'est elle dont il faut se méfier. La première, alors, c'est... ce sont des marchés qu'on appelle, en français, plafonnement et échange. D'accord ? En fait, ça, vous connaissez. C'est le système... je pense qu'il y a un documentaire qui a pas mal tourné sur l'Australie. Vous savez, hein, qui s'appelait comment ? Qui s'appelait comment, Francis ? La guerre de l'eau, peut-être, je sais plus. Je sais pas si vous l'avez vu, je ne dis rien. Donc le truc c'est, en fait, c'est la guerre de l'eau peut-être. Enfin c'est un truc comme ça, c'est un truc sur la Californie. Alors non, c'est sur l'Australie puis la Californie. Et ce qu'il y a, bon c'est un peu mélo, c'est un peu un documentaire, mais il y a des choses intéressantes dedans. Et surtout on voit des images. En fait c'est quoi le principe, hein, c'est que là-bas aussi ils ont des problèmes d'eau. Vous savez que c'est le pays le plus aride du monde en fait. Et donc eux les méga bassines, ça fait longtemps qu'ils ont pensé, hein, parce qu'ils ont un bassin qui, si on prend toutes les structures, ça fait 1 million de kilomètres carrés. Hein, donc pour vous dire voilà. Donc ce qu'il y a c'est que, mais au début ça allait bien. Ça allait bien, c'est-à-dire que pays aride, oui, mais enfin, ça dépend ce que tu fais. Voilà. Et devinez ce qui se passe. Bah, le capitalisme, il déboule. Les industries arrivent, l'agriculture intensive arrive, d'accord. Et là, il y a besoin d'eau. Même les habitants, nouvelle forme de mentalité, nouvel type d'utilisation d'eau, catastrophe. D'accord. Donc, à ce moment-là, il crée un système. L'État dit, ça vous rappelle un discours qu'on entend peut-être, il faut être raisonnable, il faut limiter la consommation, les gens, ils abusent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des plafonnements. OK. Donc, chacun pourra prélever des choses. Bon, OK, à la rigueur, à ce moment-là, tu dis, bon, pourquoi pas. Si l'individualisme ne prend le pas, pourquoi pas. Deuxième moment, ils mettent des droits de propriété sur l'eau. là ça commence. D'accord ? Chez nous en économie, un droit de propriété, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Puisque je vous rappelle que la base même du capitalisme, hein, sa fondation, c'est quand même la propriété privée. Hein, d'accord ? Les moyens de production. Donc là, d'un seul coup, ça y est, on rentre, on revient avec Karl Polanyi, ça y est, l'eau maintenant commence à appartenir à certains. Il y a des économistes qui travaillent là-dessus. Hein. Alors, il y en a un qui s'appelle Robert Purves, que je vous fais en français. On pourrait dire, ouais, lui, c'est vraiment un cas extrême, c'est exagéré, hein, d'accord. Donc lui, il est présent dans plusieurs ONG, même les ONG. Il a été président de WWF. Ah, c'est bien que vous soyez au courant, quand même, de WWF, hein, on est d'accord. Il intervient à l'université, il a un statut à l'université, mais il est aussi conseiller d'État. Enfin, c'est comme toujours. Circulation circulaire des élites, d'accord. Le mec, il est là, il est à la fac, il fait un rapport qui est utilisé par l'État, ça tombe bien, c'est lui le conseiller, d'accord. Mais, non, mais comme les subprimes, là même, d'accord. Donc, voilà, après, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans l'ONG en disant, si vous voulez du budget, il faut appliquer ça. Donc, évidemment, les ONG, hop, ils appliquent, et donc, résultat, ils chopent les budgets. Mais quand on prend comme ça, il y a vraiment un travail que je vais faire tranquillou, je vais regarder un peu ce qui traîne, mais quand même sur WWF, d'accord. Parce que quand on regarde en Australie, tous les pourris, alors on l'appelle le bandit, hein, Robert Purves, voilà. Donc ce qu'il y a, c'est pas moi, hein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils sont quasiment tous passés par WWF. C'est plus une ONG, c'est une école de formation. Quoi. D'accord ? C'est une école de formation. Ils sortent là-dedans avec des concepts néolibéraux.
Neurones dans le cerveau qui disparaissent de jour en jour. Dans les petits bois, les petits discours. Des petits rois dans les basses-cours. Des petits qui se cachent, des petits qu'on cache. Des petits qu'on joue à pile aux faces. Des petits qui vont grossir les ventres. Des petits caissiers dans les carrefours. Des petits problèmes de récession. Des petits ministres dans les prisons. Des petits pour payer. Ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers des pompes funèbres au cours d'école. Pour voir comme les petits sont fringués. Y'a de la griffe sur les guiboles. Des petits insectes sur les fleurs. Des petits peuples dans le computer. Des petits pour l'eau, des petits pour l'air. Des petits pour pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons. Les petits rois, les petits cons. Pour vendre qui on est à la criée sur les marchés, ouais. Des petits sous, qui veut des petits sous? Des petits sous, des petits sous, on veut des petits sous, allez. Des petits sous, qui veut des petits sous? Moi, moi, des petits sous, on veut des petits sous. Dans les rizières, les petits chinois, la planète à la gueule de bois. Les usines sur les machines, tandis que le peuple s'échine. Taper, taper sur les claviers, dans la matrix on se fait violer. Oui, le peu qu'il reste d'humain, contre un karma bandit satin. Dans les salons, les résistants, les tendis et les bien portants. Portant la sueur de tous ces os, combattants de moulins. Sur les marchés, des petits sœurs qui feront des petits, comme la connerie qui se multiplie. Ton petit chèque en fin de mois, non, lui, il se multiplie pas, comme le cynisme dans les sourires, des petits tortues dans les parties, des petits problèmes de récession, des petits ministres dans les prisons, des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue à pile ou face, des petits qui vont grossir les gros, qui rendent les petits toujours plus petits, pour que le petit n'ait d'autre choix. Pauvre de lui que de faire des petits, oui, oui. Des petits sous, qui veut des petits sous? Des petits sous, des petits sous, on veut des petits sous, allez.
Come down.
même forme. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un échec. Ce marché, c'est n'importe quoi. D'accord ? Bon, les petits agriculteurs font faillite, bon, ça, ils ont l'habitude, voilà. Quelques gros s'enrichissent, d'autres achètent de l'eau, la revendent, voilà, en fait, ils ne savent même pas pourquoi. Dans le documentaire, vous voyez, le paysan, il est là, c'est un paysan, le gars, il a quelques bêtes et tout, etc. Il a son téléphone portable et il dit, j'attends que le cours de l'eau baisse. Vous avez vu ça ? Après, il dit, allez, vas-y, j'achète. Et ça lui fournit un peu, ouais, n'importe quoi. Enfin, en même temps, on verra ça dans les solutions. Il y a un moment donné, respecter les règles alors qu'à ses pieds, il a de l'eau. On pourra en discuter malgré tout, hein, d'accord ? Une deuxième chose qui est aussi déjà présente en France, mais qui est très, très utilisée aux États-Unis, forcément, c'est vraiment aussi une question de mentalité, hein, sur le charity business, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà. C'est ce qu'on appelle les marchés de compensation. Là, c'est simple, c'est... t'éclates, je sais pas, tu pollues de l'eau, mais tu vas donner de l'argent pour qu'ils plantent des arbres. Non, c'est pas pour leur payer rien. Il y a une petite différence technique, mais si vous voulez, c'est un peu ça, d'accord ? C'est qu'à un moment donné, tu vas payer d'autres entreprises qui, elles, font des bonnes actions, d'accord ? Bon, tes bonnes entreprises, souvent, t'es pas loin de les posséder, d'ailleurs, hein, mais c'est une question pratique. Comme ça reste en famille, quoi. Après, évidemment, troisième modalité. Alors, la deuxième, c'est pareil. Ça marche mal. Ça marche très, très mal. Ça marche quasiment pas. Quelques entreprises qui vont vous dire « Oui, moi, je fais voler des avions, mais vous avez vu, j'ai planté des sapins, quoi. » Donc, bon. Après, il y a tout ce qui est action obligation verte. Je sais pas si vous avez vu ça. La finance verte. Oh là 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 là. C'est formidable. Tous les travaux qui sortent dessus, même ceux qui sont pour, ont tellement du mal à la défendre, tellement c'est juste n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit juste de filmer une réunion d'actionnaires principaux qui arrivent avec des jets de partout. C'est fini. Vas-y, OK. Mais l'Europe, bien sûr, toujours en embuscade, l'Europe, hein, a créé un classement, en fait, de ces entreprises-là. Donc vous, hein, voilà, vous savez qu'il existe des vice funds, des fonds du vice. Si vous savez ça, de l'alcool, de la drogue, machin, et des fonds vertueux, il existe aussi. Eh bien, vous pouvez adhérer à un fonds vertueux, et ils achèteront ces actions, avec un classement, etc., et puis peut-être que vous irez au paradis après, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est possible. Après, il y a la Californie. La Californie, alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu énormément de bêtises de dites. Hein. On a dit, ouais, ça y est, c'est le premier marché financier de l'eau. C'est pas vrai, hein, en fait, c'est pas ça, en fait. C'est un système qu'on appelle...
C'est à qui le vélo gazelle gris qui est accroché devant l'autre ?
Et la BMW, elle va se reculer, 248, BV, ça suffit. Hein.
C'est à quelqu'un ?
Non mais reste là, c'est pas grave.
Non, non, faut que j'aille travailler, tu sais, j'ai des vies à aller sauver, moi, ce soir.
Oh ! Il est boulanger ?
Tous les soirs au balcon !
Il est boulanger.
Non, il est soignant à l'hôpital. Ah, le vélo, non ? Personne n'a un vélo ?
C'est Peugeot.
Ah !
Ah, ben voilà !
C'est à moi ou à Christophe ? Mais si Christophe ne bouge pas, c'est
que... Il y a des balances. Alors, je suis à 30 minutes. Je suis à la fin du troisième point, il me reste le quatrième. Formidable. Franchement, je pense que je vais tenir 50. Ça tient bien, là ?
Ah, c'est super.
Super ?
C'est génial.
C'est un métier ou c'est pas un métier ?
On dirait.
On dirait ou pas ?
On dirait.
On dirait que je suis prof ou je suis pas prof ? Merci.
Sauf plein de vie.
Sauf plein de vie. Alors oui, pardon, oui. Donc la quatrième solution qu'ils essayent donc de nous imposer, c'est donc la Californie. Alors la Californie, c'est pas vraiment un marché financier. C'est ça qui est le piège. En fait, c'est ce qu'on appelle des marchés à terme. Un marché à terme, pour pas être technique du tout, c'est simple. C'est-à-dire, je vais déterminer un terme avec toi, c'est-à-dire dans 6 mois, par exemple. Je vais t'acheter ton eau, d'accord, à un prix fixé. Ça sert à quoi ? En fait, ça dit, ouais, ça protège les gens, comme ça, ils sont sûrs du prix de l'eau, etc. Bon, évidemment, derrière, c'est une logique de profit crado qui traîne, quoi. D'accord ? Si je te vends l'eau, je sais pas, moi, à 3 balles le litre, parce que je pense que je vais l'acheter 2 dans 6 mois, quoi, c'est tout. Voilà, donc, et après, je vais revendre à un autre qui pense qu'il va acheter 1, enfin, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour des raisons intrinsèques. C'est-à-dire que l'eau, dans 6 mois, il l'a pas, en fait. Donc, vendre de l'eau dans 6 mois alors que tu l'as pas, en fait, ça sert à rien. D'accord ? Donc, ce marché-là, il est poussif. Il est ce qu'on appelle illiquide. Donc, là, franchement, c'est pareil. De tout ce que j'ai lu... Oui, illiquide pour de l'eau, mais bon, je vous dis... Je peux avoir un verre de rouge.
Oui, c'est possible.
Ah, c'est possible. Et comment dire ? Merci, Fadien. Et comment dire ? Donc, là, l'ennemi ne vient pas de là non plus. D'accord ? Ils galèrent tellement en Californie, personne n'en veut de leur truc, quoi. D'accord ? Ils attendent juste de trouver une solution. C'est la cinquième piste qui nous pose un vrai problème. La cinquième piste, elle a été annoncée pour la fin 2022. Pour décembre 2022, ils allaient nous sortir un modèle de fou, d'accord, pour enfin financiariser l'eau. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a complètement quitté la distribution. Public, privé, blablabla, etc. On a complètement quitté ça. D'accord. Là, on est dans quelque chose, c'est l'eau elle-même qu'on financiarise. C'est plus pareil du tout. Ce truc-là, d'accord. Alors, je vais les appeler, en fait, ça s'appelle Société d'actifs naturels. D'accord. Alors, ça porte un nom anglais. Alors, je vais vous le donner. L'abréviation, c'est NAC. D'accord. Parce que vous allez trouver NAC partout. Bon. Alors, comment ça fonctionne une NAC? En fait, c'est assez simple. On va déterminer un endroit où on considère, en fait, que là, on est sur des actifs naturels. Alors, actifs naturels, bon, pour eux, actifs, ça veut dire quelque chose qui s'achète, qui se vend, hein, d'accord? Donc, c'est pognon. Ça peut être tout. L'alimentaire, je vous renvoie aux émeutes de la faim. Ça peut être de l'eau, évidemment. L'eau est aussi, donc, pour eux, un actif. Et j'ai trouvé des citations, mais de responsables de la bourse londonienne, partout, qui disent... L'eau, c'est pas que la vie, c'est aussi de l'économie. Pourquoi ils penseraient que ça devrait être gratuit? Ils pensent même que grâce à ce système-là, ils vont mieux gérer. D'accord? Ils en sont persuadés. Merci, j'en ai besoin. Alors, c'est une société qui s'appelle IEG. D'accord? Ça, je pense pas qu'on la retrouvera sous ce nom-là, nous. Qui va en fait créer une plateforme. Cette plateforme-là. Et là, vous allez voir à quel point ça nous rappelle les méga-bassines, quoi. Cette plateforme-là, ce qui va se passer, c'est que les propriétaires de l'eau, d'accord, vont pouvoir donc créer une NAC. D'accord. La NAC, dedans, ils disent, voilà, bah, j'ai pas, un milliard de litres d'eau, bah, voilà, ok. Donc, moi, je suis propriétaire de ça. Ça peut être des propriétaires privés, publics qui s'associent. Oh là là, vous voyez le danger, ça vous rappelle les PPP, les partenariats publics-privés, par exemple. Bon, on peut s'associer, d'accord, et on peut faire rentrer des investisseurs. Vous avez compris. Évidemment, l'association là de IEG qui va faire cette plateforme, c'est avec la bourse de New York. D'accord? Vous imaginez la puissance financière? Ils estiment que sur la planète, il y a à peu près 125 000 milliards à se faire. D'accord? Et, non, 125 000 milliards. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est plus que le PIB, c'est 50 fois le PIB de la France, quoi. D'accord? Donc, évidemment, qu'à l'heure là, tous leurs ingénieurs sont au boulot. Ils n'ont pas sorti le modèle en décembre, on ne l'a pas eu. D'accord? On ne sait pas ce que ça vaut. Mais c'est ça le principe. Et une fois que tu as créé ta NAC, eh bien, en fait, tu peux vendre ta NAC, d'accord? Sur un marché, ok, tu peux vendre ta NAC. Donc, on ne sait pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont découper en petites NAC ou une seule grosse NAC, etc. Et là, il y a un risque de financiarisation. Si ça fonctionne, la plateforme, elle sera internationale, elle sera délocalisée, impossible de la choper. Vous savez bien comment ça se passe avec la finance, hein, pour imposer même des règles. Et ce qu'il y a, c'est que tu dis, bon, la phase numéro 2, c'est que il ne faut pas que les États bougent. Si les États suivent, alors là, ça va être chaud. Eh bien, Biden, le 18 août, il annonce qu'il incorpore dans le bilan comptable de l'État américain tous ses actifs naturels. On pourrait se dire, ah chouette, ça veut dire qu'ils vont le prendre en compte. Non, non, non. Ça veut dire que ça y est. On va faire du fric dessus. Il y a une marchandisation qui va se mettre en place. Et il dit aussi, il ajoute, oh, il a été élu, il a gauche, hein, Biden, ça. Je suis un peu. Enfin, il est toujours à gauche de Bush, ou je sais pas quoi, mais voilà, voilà, ou de Trump, ouais, voilà. Donc, et il annonce aussi qu'il va transférer 30% de tous ses actifs naturels, en fait, à IEG, et donc à la Bourse de New York. Là, vous voyez, ça nous rappelle, en fait, quelque chose de très particulier. C'est-à-dire, si vous voulez, le problème, c'est que sur 5 solutions, il y en a 4, c'est une cata. Donc moi, franchement, au début, je bosse dessus, je fais « Ouf, ils vont pas le faire. » Bah si, ils vont le faire. Bah ils sont cons. Enfin, je veux dire, logique de court terme, profit. Si ça marche pas, mais que finalement, ça les enrichit sur le court terme, on va appeler ça les subprimes. Donc ils le feront. Donc les quatre risques-là, je vous dis, ça marche pas, on risque pas grand-chose, je sais pas. S'ils perdent de l'argent, ils n'iront pas. Mais la cinquième solution, elle pourra nous poser un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut pas les laisser constituer les méga-bassines. Parce qu'à ce moment-là, méga-bassines, association, entrée d'investisseurs. Après, ça va être des formes hétérogènes aussi d'investisseurs, on ne sait pas. Et ensuite, à ce moment-là, sur le marché international, on pourra s'accaparer donc, les ressources en eau.